Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Campagne électorale jour 1. Ah mon Dieu, par quel bout prendre ça ce matin? D'abord vous dire qu'il y a quand même quelques questions fondamentales. Au-delà des engagements, des promesses, là. La première question, c'est est-ce que les Québécois ont un intérêt pour cette campagne? Est-ce que vous suivez ça? Et la deuxième question la plus importante, irez-vous voter? On a vu dans d'autres pays récemment, puis même en Ontario, un taux de participation relativement faible. Puis on est loin là des périodes électorales qui suscitaient la passion avec un 70, 72, 75 % de Québécois qui vont voter. Donc, la première question que les organisations, que les partis doivent se poser, comment capter votre intérêt puis comment vous amener à voter? Ça, ce sont les deux éléments clés. Hier, puis en fin de semaine, j'ai vu un peu le spin. Tu sais, j'entendais, là, rien n'est joué. Nous sommes le parti Cendrillon, disait M. Saint-Pierre Plamondon. Nous serons la véritable opposition. Gabriel Nadeau-Dubois, je me place pour être le vis-à-vis de François Legault. Bon, tout ça est très bien, là. Mais, et je comprends que les gens n'aiment pas trop les sondages, là. Mais un sondage, marge d'erreur. Mais un sondage n'est pas dans le champ à ce point-là. C'est quoi le topo ce matin? C'est qu'il y a une opposition divisée. La CAQ va pas chercher 50 % des voix, là. Il y a une majorité de Québécois qui votent pour l'opposition, mais l'opposition est fragmentée. La vraie question, quel parti d'opposition d'ici le jour du scrutin va être capable de se démarquer, va se décoller et va devenir l'opposition officielle? Et est-ce que la CAQ a atteint son plafond? Puis est-ce que la CAQ peut baisser par des erreurs, par des, ce qu'on appelle là, des plures de bananes, des engagements un peu bizarres? Puis là, le défi, on l'a vu hier, là, puis ça s'est traduit par une gaffe. Mais hier, c'était quoi le défi? On nomme pas les autres, il faut pas personnaliser le débat, on marche sur l'eau, on surfe, on essaie pas faire de vagues, pas de bruit, roulons jusqu'à l'élection, puis on reprend les affaires après. C'est un peu ça. Sauf qu'en disant cette phrase-là, la madame-là, M. Legault, tu sais, quand tu veux pas nommer les choses, puis que t'as pas préparé ta phrase, ben là, tu peux dire une niaiserie. Bon. Puis après ça, il a regretté. Mais ça a été le fait dominant hier. Quand vous regardez là, les manchettes partout, là, puis Mme Anglade a repris ça en disant, je suis pas une madame, mon nom c'est Dominique, puis plus tard dans la journée, là, tu sais, on comprend, là, c'est de bonne guerre, fait partie du spin, mais bon. Alors, quel parti d'opposition va être capable de se décoller des autres? Les libéraux, Québec solidaire, les conservateurs, le PQ, c'est ça qui va être intéressant. Et comment ces partis-là vont vous amener dans quelques semaines vers le bureau de scrutin? Puis là, on comprend, il y a des stratégies. Il y a, d'abord, les bases militantes existent. Il y a, chaque parti a son bassin. Le Parti québécois a beaucoup moins. Mais prenez les conservateurs. Les fâchés se retrouvent avec les conservateurs. Là, quand j'entends M. Duhaime dire on fera pas une campagne juste sur les règles sanitaires, on comprend que, disons que le fer de lance, c'est beaucoup ça. Et aussi des promesses qu'il fait, des propos qu'il tient sur des champs de compétences qui sont pas les siens. Quand j'entendais parler des armes à feu, là, je comprends que tu peux avoir un point de vue, mais c'est pas au Québec qu'on détermine s'il y a un registre, c'est dans la Cour du fédéral. Alors, est-ce que cette haine-là, ou cette colère, je devrais dire plutôt, va amener les gens à aller voter? Je vais en parler avec Jean-Marc Léger tantôt, mais je trouve ça quand même important de replacer ça. Là. Je sais que tout le monde essaie de vous convaincre que c'est une campagne électorale majeure, puis que là, il faut vous y intéresser. Puis ça inclut les médias hier, qui étaient là, puis là, vous savez, c'est pas fini, puis c'est pas réglé. C'est sûr que c'est pas fini. Mais c'est pas vrai que les sondages sont aussi dans le champ que ça, là. Ça serait pour le moins étonnant. Ça peut virer. On a déjà vu ça. Mais on peut penser aussi que le véritable enjeu, ça va être de déterminer l'opposition. Puis pour le Parti libéral, là, pour vous dire une chose, le pari est élevé. La grogne chez les anglophones, qui va peut-être s'atténuer, mais est-ce que le Parti libéral va demeurer l'opposition officielle? Ça aussi, c'est quand même une question importante. Alors voilà pour l'exercice électoral. Puis on a beaucoup parlé des propos de François Legault là, sur la madame. Mais là, on commence à avoir des candidats. Puis je me souviens, Mario Dumont, il me disait, quand t'es chef de parti, l'angoisse, quand tu te réveilles le matin, tu dis quel candidat est allé dire une niaiserie ou qu'est-ce que je vais apprendre sur le passé d'un candidat, d'une candidate. Bon, là, on a eu en fin de semaine droit à l'histoire du candidat André Morin qui a dit essentiellement que pour lui, il est candidat là, donc pour le Parti libéral, l'enjeu du français, c'est pas important. C'est-à-dire que le français est pas en danger. Et Dominique Anglade est obligé de le contredire. Alors, quand il regarde les chiffres comme ça, il a commenté en disant que c'est pas quelque chose qui l'inquiète. C'est ce que je dis à Mme Anglade, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Alors, il considère qu'il y a déjà des mesures en place pour protéger le français puis qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Il est candidat dans l'Acadie. Un comté important pour le Parti libéral. Là, Mme Anglade, t'es obligé de dire le contraire. Puis il y a un autre candidat qui, lui, s'est pincé avec Isabelle Charest. Accrochage également. Donc, ça a été... lui, il a envoyé des courriels, disons, intenses. Puis là, il a voulu, après ça, commencer à nuancer. Alors, vous allez avoir de tout ça, puis là, vous allez avoir un flot de promesses électorales sur l'économie, sur le réseau de la santé. Je ne sais pas si on va vraiment faire un débat de fond. Moi, j'espère, mais je ne suis pas convaincu que ça va arriver. Sur l'éducation, sur la place du privé en santé, je sais que le Parti conservateur veut le faire, mais ça ne veut pas dire faut faire payer les patients. Ça veut juste dire comment avoir un système de santé plus performant. Puis aussi, là, vous allez avoir le festival des chèques qu'on va vous promettre. Là. On va vous donner 500, on va vous donner 2000. Alors, on va regarder ça aller ensemble durant la campagne électorale. Je veux, avant de retrouver Marc, parler de cet incident qui s'est produit impliquant la vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, alors qu'elle est en Alberta, dans un hôtel de ville, elle est avec son équipe, elle s'en va vers l'ascenseur, puis t'as un taupin qui l'accroche, qui gueule après, qui s'avance vers elle, qui est d'une violence verbale hallucinante, puis une femme qui la traite de bitch, là tu te dis, est-ce qu'il va rentrer dans l'ascenseur, est-ce qu'il va frapper? Ça a été dénoncé par tous les politiciens au Canada. M. Poilievre a été plutôt effacé sur la question. Mais comment se fait-il que la vice-première ministre du Canada n'a pas un minimum de protection? Là, je lisais les propos du ministre de la Sécurité publique, à qui on va parler tantôt, qui dit, la GRC leur donne un numéro de téléphone s'ils sont dans le trouble. Le sergent d'armes s'occupe de la protection à Ottawa. Non, excuse-moi, là. Les ministres au Québec ont un chauffeur. Et quand la situation l'exige, il y a un niveau de sécurité plus important. Au fédéral, là, quand Justin Trudeau débarque en studio, c'est le contingent de la GRC, le chien renifleur, on a droit à tout, là. Puis je comprends ça, c'est le premier ministre du Canada. Puis dans une période où les gens sont crinqués, puis la haine est au rendez-vous, c'est normal. Mais tu peux pas laisser aller tes ministres comme ça dans l'environnement. Là, on serait dans quel type de discussion ce matin si Mme Freeland avait été agressée? Je veux dire, c'est comme, vous attendez quoi? Puis là, on va me dire, oui, mais le chauffeur prend le ministre, par exemple, le lundi matin, puis le ramène le vendredi, puis il n'y a pas nécessairement tout le temps de protection. C'est invraisemblable. Mais c'est comme ça. Et puis aussi, on a annoncé samedi un plan de 250 millions sur 5 ans pour aider Montréal. renflouer les effectifs policiers parce qu'il y a, il y a un plan de départ, là, c'est-à-dire qu'on voit ces policiers qui partent à la retraite. Puis j'avais vu aussi le discours, Mme Guilbeault, Mme Plante, tout le monde, on aime notre police. Et elle s'en prend à ceux qui laissent entendre qu'elle veut réduire le financement du SPVM puis qu'elle est contre la police. Je veux rappeler quand même certains faits. D'abord, elle est à la tête du parti qui a proposé deux débats récemment. Un, de réduire le budget de la police. Deux, d'enlever des armes aux policiers. Parlait même d'un projet pilote il n'y a pas si longtemps. Fait qu'il ne faut pas se surprendre de la méfiance qu'ont les policiers, policières, terrain, face à l'administration municipale. C'est pas que la mairesse veut ça, pense ça. Je dis que son parti fait la promotion de ça et que son parti a amené ses propositions sur la table. Là, on va voir, parce qu'on s'entend, là, c'est très politique, c'est une belle annonce, correct, on met de l'argent, puis on ajoute de l'argent aux communautaires, ça va ensemble. On va demander à des travailleurs sociaux de faire certaines tâches. On est tout à fait d'accord. C'est plein d'allure. Là, maintenant, on veut des résultats. Et je dirais en conclusion là-dessus, c'est quand même spécial que ça a pris deux meurtres en 30 minutes à Montréal pour là déclencher ce plan de 250 millions sur les effectifs policiers. C'est comme si la violence venait d'arriver en ville. Oui, vous allez me dire, ils ont créé Centaure, c'est vrai. Puis ils font des opérations, c'est vrai. Mais la notion d'effectif, de départ à la retraite, les difficultés de recruter, des postes de quartier dépouillés parce qu'on prend des policiers et on les envoie sur ces unités-là, pour commencer la semaine passée. Comment ça se fait qu'on s'est retrouvé en situation de crise, en cellule de crise à la Ville de Montréal, au gouvernement du Québec, pour dire hey, qu'est-ce qu'on fait là? Là, les citoyens sont inquiets. Ça aurait dû être, me semble-t-il, un plan connu depuis longtemps, mais non, ça prend toujours une crise pour provoquer quelque chose comme ça. Juste faire une parenthèse, j'ai dit que le registre d'armes à feu était de compétence fédérale. Il est provincial maintenant, mais le contrôle des armes à feu est quand même de juridiction fédérale. C'est Justin Trudeau qui décide d'abolir les armes de poing. Il a une responsabilité sur quel type d'armes circulent à travers le Canada. Puis rappelez-vous, Laval, c'est étrange qu'on a eu droit, là, on va confier ça aux villes, puis après ça, on va confier ça aux provinces. Je veux dire, l'espèce de c'est nier un peu et de beaucoup la réalité. Là, finalement, il s'est positionné. Rentrée scolaire, deux, trois choses. Pour les parents, c'est un niveau d'inquiétude à chaque fois, là. C'est-à-dire que c'est beaucoup de stress qui vient s'ajouter au stress ambiant. Mais deux exemples ce matin que je veux aborder avec vous. Le premier, dans le New York Times, hier, on parlait de la surconsommation de médicaments chez les ados. On comprend que l'anxiété est à la hausse, que la pandémie a créé beaucoup d'inquiétudes, plus qu'en temps normal. Et ce qu'on remarque, c'est que beaucoup d'ados qui ont un diagnostic de TDAH consomment également des médicaments contre l'anxiété. Et quand vous regardez les études qui ont été faites, par exemple, ça date de 2020, vous avez 40% des jeunes qui ont une prescription pour faire face au TDAH, qui ont aussi au moins une prescription d'un médicament contre l'anxiété ou un autre problème, dépression par exemple. Et beaucoup de médicaments sont prescrits alors qu'ils ne sont pas homologués pour des ados. Et là, évidemment, on vous raconte un cas qui est très lourd d'une jeune fille qui est équivalent du secondaire, puis qui s'est fait prescrire du Prozac. Puis après ça, on lui a donné de l'Effexor, puis d'autres médicaments, puis dans certains cas, c'est 6-7 médicaments différents. Alors, c'est sûr que on vous dira, c'est mieux ça que rien. Que de ne pas être capable d'avoir de rendez-vous, puis de ne pas avoir de suivi avec un psy, il faut quand même calmer le jeu. C'est vrai, mais souvent, ces médicaments-là devraient être donnés pour une courte période de temps, puis surtout devraient être accompagnés d'une thérapie. On va parler avec un psychiatre tantôt. Mais là, il n'y a pas de ressources. On l'entend assez souvent. Il n'y a personne de disponible. Il n'y a pas d'avoir de rendez-vous. On n'a pas les moyens toujours de se payer ça. Donc, on compense par une médication. Puis, on se rend compte aussi que ça peut avoir des effets quand même à long terme. L'autre élément pour la rentrée scolaire, c'est le transport. Je ne sais pas qui croire, pour être bien franc, là, au centre de service scolaire des affluents. C'est qu'on explique dans une note envoyée aux parents. Puis là, on va voyager les élèves du primaire puis du secondaire. Et on ajoute dans la note que les points d'embarquement et ensemble, que les points d'embarquement et débarquement des élèves se feront majoritairement à des coins de rue à une distance maximale de 300 mètres du domicile. Il est fortement recommandé, surtout pour les premières semaines de classe, qu'il y ait une personne responsable, on pense évidemment aux tout-petits, là, responsable sur place, quand l'enfant monte ou descend de l'autobus. Contrairement aux dernières années, les conducteurs laisseront descendre les élèves du préscolaire qu'il y ait ou non une personne responsable au coin de la rue ou devant le domicile. Ça, c'est ce que dit la note, le mémo, envoyé au mois de mai. On a vérifié hier, puis là, on nous dit, puis là, ça a l'air que pour les enfants de la maternelle 4 ans, puis les enfants de 5 ans, ils vont porter un visuel qui va permettre au chauffeur de les identifier. Et le chauffeur va appliquer la procédure. S'il n'y a pas d'adulte pour les 4-5 ans, il va les ramener à l'école, donc au service de garde. Alors, conseil d'amis, parce qu'à chaque année, quand il y a la rentrée scolaire, il y a un enfant qui se trompe d'autobus, il est perdu, on le débarque sur la mauvaise rue, ça fait partie des ajustements. Je vous invite à la grande prudence, la grande vigilance, évidemment, quand ça se produit. Dans les autres nouvelles, je rappelle que c'est ce matin, autour de 8h30, le départ de Artemis 1. C'est une mission qui ultimement va ramener l'humain sur la Lune, puis peut-être la planète Mars. Une mission de 39 à 42 jours. Il n'y a pas d'humain, c'est une mission donc très, très mécanique. Et ultimement, pour Artemis 2, il y aura 4 astronautes qui vont en faire partie. Et il y aura un Canadien, ce soit par exemple David Saint-Jacques, Hanson, C.D. Gibbons ou l'autre, astronaute, donc un des 4. Et David Saint-Jacques sera avec nous tantôt pour nous parler de ça. Mais c'est une volonté quand même avec une cadence assez élevée, là, 2024, une autre expédition, et ça va aller très bien. Avez-vous vu l'histoire de Bell depuis le congédiement de Lisa Laflamme? C'est de plus en plus étrange, hein? D'abord, dans le Globe and Mail, on apprend ce matin qu'il y a eu 3 enquêtes dans le passé sur le climat de travail à la rédaction de Bell. Comportement agressif des patrons, harcèlement sexuel et utilisation du mot en haine lors d'une activité de l'entreprise. Ça, c'est 3 choses. Là, le président de Bell nous dit c'est pas la couleur de cheveux, c'est pas le genre, c'est pas l'âge de Mme Laflamme qui sont à l'origine de son remplacement, mais une volonté d'être plus moderne. Alors, si c'est pas l'âge, si c'est pas la couleur de cheveux, si c'est pas parce que c'est une femme, tu sais pourquoi? Pourquoi elle peut pas? Qu'on veut redéfinir le bulletin, c'est une chose, mais à date, on n'a pas aboli le bulletin là, de fin de soirée. On a changé la présentation. Ça sent bizarre quand vous regardez ça ce matin.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Il aura fallu 2 meurtres en 30 minutes à Montréal, dans des endroits publics, dans des endroits fréquentés, pour que le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, annonce un autre plan. Pourtant, la violence à Montréal est dans le décor depuis plusieurs mois. Donc, on a annoncé 250 millions sur 5 ans, notamment pour l'embauche de policiers, des sommes additionnelles sont aussi prévues pour les organismes communautaires. Et on espère donc que ça va permettre de mener une lutte plus efficace contre cette violence, ce crime désorganisé. Il y a également une responsabilité qui incombe au gouvernement fédéral, et pour en parler ce matin, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino. Monsieur Mendicino, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cet investissement de 250 millions annoncé, plus d'argent pour la police?
C'est une étape dans la propre direction. Je suis toujours en contact avec la mairesse, avec mon homologue, la ministre Guilbeault. Mais en même temps, c'est un temps très difficile pour les Montréal et Montréalais. J'ai l'opportunité pour quelques engagements pendant le printemps avec le forum. Et il y a moins d'un mois que j'étais là à la Rivière-des-Prairies pour transférer plus de 40 millions de dollars pour avancer une stratégie de prévention avec mon collègue le ministre Rodriguez. Mais le problème est complexe et c'est pas facile. Je sais que c'est un moment très dur et le message clé pour tout le monde est le gouvernement fédéral est là pour la Montréal.
Quand vous dites que vous êtes là pour Montréal, je vais regarder ce qui est dans votre champ de responsabilité puis j'aimerais vous entendre là-dessus. Tout d'abord, sur les sentences, c'est pas vous directement, mais c'est le gouvernement fédéral, là. Les sentences pour des gens qui utilisent des armes à feu, pour des gens qui font le trafic d'armes à feu, pour des gens, bref, qui tirent un peu partout et sur les gens, vous trouvez pas que les sentences sont molles? On n'envoie pas un gros message?
Mais dans mon projet de loi C-21, il y a une proposition pour augmenter les peines, pour rendre une peine plus sévère pour eux qui trafiquent les armes à feu illégales, qui essayaient d'importer les armes à feu illégalement à nos frontières et dans nos communautés. C'est inacceptable. Le message est très clair. Si vous voulez terroriser nos communautés, vous serez rendu à la jail pour un plus long temps. Mais c'est seulement un pilier, OK? Il faut passer de bonnes lois comme le projet de loi. Nous avons.
Mais attendez, quand vous dites les peines seront plus sévères, les peines vont passer de quoi à quoi?
À quoi? À 10 ans, à 14 ans. Donc, 14 ans est la dernière étape avant une life sentence. OK, une sentence de vie. Donc, ça, c'est un niveau de sanction qui est très au sérieux. Mais c'est seulement un pilier. Il y a des autres. Il faut continuer de faire des investissements pour aider nos forces policières à la frontière. On avait fait des progrès. Il faut aller plus loin. Et troisièmement, il faut attaquer le problème à la cause profondément. Et ça, c'est la raison que j'étais là à la rivière de Prairie pour travailler ensemble avec les organismes qui comprennent très, très bien qu'est-ce que sont les solutions pour mieux protéger tous les communautés qui sont au risque.
C'est sûr que le communautaire est un enjeu important, mais je vais vous soumettre une autre réalité, qui est la suivante. Un individu, sans doute que vous le savez, a été arrêté, condamné, pour avoir importé des armes de poing illégalement des États-Unis. C'est quelqu'un qui avait acheté une maison sur le bord de la frontière. Cette personne a fait moins d'un an de prison et peut maintenant sortir encadré. Quelle sorte de message on envoie avec des décisions
Mais
comme ça?
Vous avez des raisons, Marc, et ça, c'est la raison qu'on avait une proposition pour augmenter les peines de sanctions dans le projet de loi C-21. Mais il faut comprendre que nous devons avancer une stratégie compréhensive. Si nous attendons à la fin de le processus pour avec une stratégie qui dépend seulement sur les forces policières, ça ce n'est pas peut accomplir le but de tout le monde. Il faut aussi avancer avec une stratégie qui peut prévenir la violence dans la première instance. Donc ça c'est exactement le projet que nous sommes en train d'implémenter avec la mairesse. J'ai parlé avec elle la dernière semaine après les deux autres meurtres. Et le processus que nous sommes en train d'implémenter avec le gouvernement de M. Legault.
Mais quand même, là, vous mettez une peine de 10 ans à 14 ans, très bien, mais est-ce que le système actuel fait en sorte que des trafiquants d'armes peuvent sortir assez rapidement de prison? C'est une sentence qui paraît évidemment très élevée, 14 ans de prison. Mais dans les faits, si après un an ou deux, on décide que c'est terminé, ça envoie quoi comme message?
Oui, il faut mettre la confiance dans le système judiciaire, mais au même temps, il faut arrêter la violence avant de commencer. Et ça, c'est la raison que j'ai une bonne collaboration avec nos partenariats pour les États-Unis. J'ai des discussions avec le secrétaire Mayorkas, qui sont le chef de la DHS là. Et nous avons une entente pour recommencer un forum conjoint pour bâtir contre la violence causée par les amateurs, pour une lutte contre la violence causée par les organismes criminels. Encore, c'est très, très, très dur. Je comprends ça. On ne veut pas vivre dans la peur. Ce n'est pas juste. Tout le monde mérite de vivre dans une communauté qui est en sécurité. Et ça, c'est la raison que le gouvernement fédéral reste là pour la Montréal et tout le monde.
Autre question. Qu'est-ce que vous pouvez en fait nous dire ce matin sur l'entrée au Canada d'armes illégales en provenance des États-Unis? Quel type d'armes? Quelle quantité d'armes? Les armes passent par où? Qu'est-ce que vous savez là-dessus et que vous pouvez nous dire?
Encore, c'est complexe, mais on avait investi plus de 300 millions de dollars depuis le dernier an pour mieux aider avec des ressources la FSC, la GRC. Et il y a quelques points sur les frontières que nous savons qui sont fragiles, qui sont vulnérables. On renforce nos ressources là. Pendant l'été, j'ai beaucoup d'engagements, beaucoup de visites avec tout ce qui travaille sur la première ligne. Pendant 2021, on avait saisi un record nombre des armes à feu illégales, y compris des armes de poing, des armes d'auto. Mais il faut aller plus loin. Je sais ça parce qu'un grand nombre des armes à feu, ils sont importés au Canada. C'est très pire et il faut renverser les directions. Donc, on va continuer avec de l'argent, des fonds fédéraux, et on va augmenter le niveau de coopération avec les États-Unis, avec le forum conjoint pour bâtir les organismes criminels.
Sur un autre front, donc un autre sujet, votre collègue, Mme Freeland, oui, a été agressée verbalement, yeah, alors qu'elle était dans un hôtel de ville en Alberta. Comment se fait-il que la vice-première ministre du Canada n'ait pas un ou des gardes du corps autour d'elle quand elle se déplace?
OK. Tout d'abord, il n'y a absolument aucune place dans notre pays pour le harcèlement, l'intimidation et la conduite menaçante dont mon collègue Chrystia Freeland. C'est inacceptable. Je viens de parler avec elle, elle était OK. Mais ce n'est pas un enjeu qui est partisan. Alors, c'est un enjeu que tout le monde doit être mis sur parce que c'est très grave. Et c'est une responsabilité qui est partagée dans mon ministère avec la GRC, avec les services policiers locaux, les provinciaux. Il y a beaucoup de collaboration entre tout le monde, même sur la colline, pour offrir tous les outils que les députés ont le besoin. Il y a une introduction d'un programme avec le bouton de panique. Il y a...
Oui, mais monsieur Mendicino, je veux bien le bouton panique, là, mais ma question est simple. Pourquoi, oui, est-ce que la vice-première ministre et pourquoi les membres du cabinet n'ont pas de garde du corps en permanence avec eux dans un contexte politique, disons-le, où la haine est au rendez-vous très souvent?
Mais ça dépend sur la circonstance. Mais il y a, pour la grande majorité de le temps, une présence de les forces policières pour nos ministères quand ils sont au public, quand ils sont dans une communauté où il y a des risques. Ça dépend sur la nature de l'annonce, etc. Mais la GRC sont là pour offrir la protection quand ils en ont besoin. Ça, c'est le message clé. Et on continuait d'explorer des solutions concrètes pour renforcer la présence de la sécurité pour pas seulement les ministères, mais même pour tous les députés, toute l'équipe, tout le monde qui travaille sur la colline. C'est pas seulement une menace à eux, c'est une menace à nos démocraties. OK? Et il faut travailler ensemble pour assurer que tout le monde est en sécurité.
Vous avez, j'imagine, un policier qui vous accompagne en permanence. Vous êtes pas, prenez pas votre voiture les fins de semaine pour vous déplacer seul.
Mais écoute, quand j'ai le besoin, ils sont là. Mais on continuait d'évaluer le status de les menaces. Vous avez des raisons, c'est très complexe, c'est très au sérieux. Et ça, c'est la raison qu'on continuait de chercher des options pour offrir des outils pour protéger tout le monde. Je sais que c'est pas bon. Les images de la madame Freeland étaient très, très sérieuses. Et on va continuer de travailler avec tous nos partenaires dans la sécurité publique, y compris les services policiers régionaux et locaux, pour protéger tout le monde.
Parfait. Merci, M. Mendicino. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir.
Bonne journée.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Une chose est claire, le portrait électoral en ce début de campagne est quelque chose quand même d'assez inédit. On a toujours été habitué à une lutte à deux, trois, un tiers parti, mais c'était l'affrontement fédéraliste et souverainiste. On garde le portrait ce matin, on peut dire sans se tromper qu'il y a quand même une majorité de Québécois qui n'appuient pas la CAQ. Le problème pour l'opposition, c'est qu'elle est divisée. Je fais le point avec Jean-Marc Léger. Bonjour Jean-Marc.
Oui, bonjour Sarkar.
Alors d'abord, c'est quand même particulier là, de voir une fragmentation des partis d'opposition. Comment on explique ça?
Ah, ben ça fait depuis plusieurs élections que les deux partis traditionnels chutent de façon importante. Vous savez, en 2018, le Parti libéral et le Parti québécois ont connu le pire score de leur histoire. Et ça continue à dégringoler depuis ce moment-là. Fait qu'on se retrouve avec un parti qui est à la tête, la CAQ, à 42 % des intentions de vote. Mais pas 42 %, hein, c'est pas exceptionnel. Jean Charest, même Philippe Couillard en 2014, ont obtenu 42 %. Mais ce qui est exceptionnel, et ce que vous dites, c'est que l'opposition est divisée en quatre partis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la CAQ part 25 points en avance dans une campagne électorale, ce qui est assez unique.
Bon. Il peut y avoir des marges d'erreur, mais ça peut pas... Parce que je voyais en fin de semaine en disant tout n'est pas joué. On peut encore, et même chez les journalistes, là, assister à une surprise. Ça serait étonnant que le parti qui a 42 % s'effondre complètement d'ici le scrutin.
Oui, ça serait étonnant, mais on a vu d'autres campagnes électorales. Il y a eu des mouvements de vote importants. Prenez Mme Marois en 2014, elle a perdu 12 points pendant la campagne électorale. C'est énorme. Si le parti, la CAQ, par exemple, perd 7 ou 8 points, ils perdent la majorité. Fait que les gens prennent pour acquis une grande victoire de la CAQ. Non, non, on est loin de là, là. On est loin. Surtout que derrière les résultats nationaux se cachent des batailles régionales très importantes. À Montréal, c'est toujours la bataille entre la CAQ et le Parti libéral dans l'Ouest, contre QS dans l'Est. Mais à Québec, il y a aussi une bagarre entre la CAQ et le Parti conservateur et dans l'Est du Québec, entre la CAQ et le PQ. Essentiellement, là, c'est des batailles régionales qu'on a cette année.
Si l'électorat de la CAQ s'effrite, quel parti peut en bénéficier le plus?
Le deuxième choix des caquistes, c'est le Parti québécois. Ce qui est assez particulier, là, parce que le parti est au cinquième rang actuellement avec seulement 9 % des voix. Mais il y a beaucoup d'anciens péquistes qui votent pour la CAQ pour l'instant. Et on verra durant la campagne électorale. Non, il ne faut pas prendre les Québécois pour acquis. Ça, c'est le danger. Parce que j'ai nommé tout à l'heure Pauline Marois, mais allez-y avec Mario Dumont. Mario Dumont, en 2007, a gagné 13 points dans une campagne électorale. On s'en rappelle, il est parti de 18 % terminé à 31 % Et le cas le plus patent, c'est celui de Jack Layton. 2011, il a gagné 25 points dans la campagne électorale. On ne peut pas aujourd'hui affirmer ce qui se passe. Vous savez, Paul, les sondeurs, nous sommes très bons pour prédire le passé. On est fort. Mais prédire l'avenir, là, c'est pas encore fait. Il n'y a aucun vote dans l'urne pour l'instant.
Ça, c'est vrai. Mais en même temps, on se dit, lequel des quatre partis, les libéraux, Québec solidaire, les conservateurs ou le Parti québécois, lequel donc des quatre peut décoller puis former l'opposition officielle? Parce que ça, c'est aussi un des enjeux importants.
Oui, parce qu'actuellement, le plus probable, ça demeure le Parti libéral, pas nécessairement en termes de vote, mais en termes de sièges, parce qu'il a une vingtaine de sièges assurés dans l'ouest de Montréal. Ça lui permet normalement d'être le parti, l'opposition officielle. Mais c'est ça, la grande énigme aujourd'hui, c'est qu'il va émerger un parti qui va devenir l'alternative de la CAQ durant l'élection. L'électorat le souhaite. 62% des Québécois souhaitent une opposition forte. Ils veulent pas un pouvoir absolu pour la CAQ. Ça, c'est un sentiment de fond, ça. Est-ce qu'un parti va être capable de capitaliser, canaliser cette émotion populaire-là? C'est ce qu'on voit au cours des prochains jours. Les quatre chefs d'opposition sont quatre nouveaux chefs qui n'ont jamais fait de campagne électorale. Donc, sous les lumières de 36 jours de projecteurs, il y en a un ou deux, à mon avis, qui va émerger.
En terminant, il faut parler du taux de participation. Comment est-ce qu'il a évolué depuis les dernières élections? Et est-ce que tu as l'impression que les Québécois vont aller voter, les gens qui sont fâchés, là, qui sont dans le Parti conservateur peut-être, mais ça évolue comment le taux de participation depuis quelques élections?
Oui, ça va pas très bien. On est habitué au Québec, au provincial, à plus de 80% ou autour de 80% des voix. Ça a décliné au fil des années. À la dernière élection de 2018, 66% seulement des gens ont voté. Mais quand on regarde ce qui s'est passé il y a 3 mois en Ontario, le taux de votation était de 43%, Paul. 43% pour une élection. Avec nous, on devrait se retrouver autour de 55 à 60 de taux de votation. Ça favorise qui? Ça favorise les partis qui sont populaires auprès des personnes âgées. En premier, c'est la CAQ. En deuxième, le Parti libéral. Ça, c'est le principal défi de Québec solidaire, qui est premier chez les jeunes. C'est un succès d'estime, mais les jeunes ne votent pas. C'est tous ces facteurs-là d'une campagne électorale qui sont imprévisibles, nous qu'on surveille quotidiennement, parce que il va se passer des choses. Une campagne électorale, c'est un moment d'accélération. Et les premiers jours donnent le ton.
Jean-Marc Léger, merci beaucoup. Bonne journée.
Toujours un plaisir, Paul.
Au revoir. Jean-Marc Léger, qui est président et fondateur de la firme Léger. Maintenant, vous le savez, c'est la rentrée scolaire. Une rentrée scolaire marquée par une série d'enjeux. Mais hier, le New York Times publiait des chiffres concernant la consommation de médicaments pour l'anxiété, pour la dépression, en fait, combattre l'anxiété et la dépression chez les ados. Et notamment des chiffres qui font réfléchir, qui remontent à 2020. 40% des jeunes à qui on prescrit, par exemple, une médication et qui sont TDAH, consomment également un autre médicament, dépression, anxiété ou autre. Et ce qui fait que des ados se retrouvent avec plusieurs médicaments pour contrôler le mal de vivre ou leur anxiété. Et évidemment, d'un côté, tu dis, est-ce que c'est pour une courte période? Puis on se rend compte que non. Une des raisons, c'est qu'on n'arrive pas à trouver, par exemple, une aide de psychiatre ou de psychologue. J'en parlais ce matin avec Dr. Pascal Grégoire, qui est psychiatre à l'enfance et l'adolescence. Dr. Grégoire, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, est-ce qu'on assiste ici au Québec, selon vous, à ce même type de consommation de médicaments reliés à l'anxiété et à la dépression chez les ados?
Probablement, en partie. J'ai regardé un petit peu les chiffres. Je crois que c'est un peu moins gros qu'aux États-Unis, selon ce que j'ai pu voir, mais il reste que oui, c'est une recherche puis une situation qui existe. Puis comme vous le soulignez, ce qui est plus préoccupant, c'est la combinaison de plus que deux, là, ou deux et plus.
Comment on peut expliquer ça? Qu'on comprenne un médicament, bon, pour un déficit d'attention, c'est une chose, mais comment on explique la combinaison de un, deux, puis parfois même plus?
Mais je crois que c'est aussi la recherche d'apaisement de symptômes. Je crois que on est rendu en société peut-être à confondre un symptôme puis un diagnostic. L'anxiété, la tristesse, ça peut être des émotions normales qu'on ait à vivre, mais peut-être qu'il faut les adresser sous l'angle peut-être moins diagnostique puis rechercher plus des thérapies alternatives que de la médication.
Pourriez-vous être plus précise? Je vous écoute, j'ai l'impression que quoi, on est moins capable d'en prendre, puis on veut une réponse. On veut être soulagé tout de suite?
Peut-être. Je pense qu'il y a de la réelle souffrance qui a été exacerbée aussi ces dernières années. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que avoir accès à des psychothérapies pour considérer plus les symptômes puis trouver une façon de vivre avec nos symptômes, je pense que ça serait préférable à rechercher rapidement une solution pharmacologique. Quoique la médication, bien ciblée pour des bons diagnostics, c'est encore un moyen très aidant là, pour plusieurs situations.
Est-ce que c'est pas aussi un peu le réflexe de prescrire un médicament parce qu'il n'y a pas de service disponible, par exemple, de thérapeute, psychologue ou bref? Et moi, j'entends souvent cette phrase, c'est mieux ça que rien.
Oui, j'ai l'impression que c'est probablement pire, là, ce qu'on lisait dans l'article du New York Times. Là, j'ai l'impression que c'est probablement pire aux États-Unis. Nous, au Québec, il y a des nouveaux programmes qui sortent de plus en plus avec les modalités de psychothérapie, l'auto-soin par les patients eux-mêmes. Je crois que c'est en bon développement malgré tout, là, suite à ces constats-là.
Est-ce que c'est la même réalité pharmacologique? Le New York Times dit que souvent des médicaments sont prescrits à des ados, alors que c'est pas un médicament qui est autorisé pour des ados.
Ben, nous autres en pédopsychiatrie, c'est sûr que c'est un peu notre travail quotidien de ne pas avoir toujours des médicaments bien étudiés, quoi qu'il y en a qui sont étudiés, mais le piège dans lequel peut-être tombe l'article, c'est que souvent les médicaments sont étudiés pour une condition particulière, mais sont peut-être donnés pour une autre situation. Puis c'est sûr que les études, c'est plus difficile à faire avec les jeunes qu'avec les adultes.
Est-ce que c'est normal que des ados prennent plus qu'un médicament, puis deux, puis trois, là, je voyais Prozac, Effexor, ça m'a l'air dans certains cas d'un cocktail, là.
Oui, je pense qu'il faudrait tendre à limiter ça. J'espère que la situation qui est décrite dans l'article, là, la jeune qui en a pris vraiment beaucoup, j'espère que c'est des situations relativement isolées. C'est probablement pas impossible d'en trouver ici aussi, mais je pense que la bonne pratique d'habitude, c'est de viser toujours une monothérapie. Puis peut-être, si je peux revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, oui. Il reste que sur les médicaments qui sont homologués ou non, il reste que quand même l'expérience clinique, avec le temps, nous aide à voir quelles molécules sont sécuritaires. Donc, je pense que les prescriptions sont sécuritaires, mais comme on disait tantôt, c'est la combinaison qui devrait être évitée au maximum.
Quand vous parlez de combinaison, je veux juste voir aussi, dans le fond, la question que les parents se posent quand ils vous écoutent, c'est quoi le meilleur traitement? C'est médicament, thérapie? S'il y a un médicament, pendant combien de temps? Je comprends que ça varie d'une personne à l'autre, mais en gros, c'est quoi la meilleure marche à suivre?
Ben, en fait, ça dépend du diagnostic.
Oui.
Le processus diagnostique, c'est quelque chose qui est quand même assez précis et sérieux, rigoureux, fait que de bien le faire. Ensuite, de regarder selon les diagnostics. Il y a certains diagnostics qu'il faut rapidement aller à la médication, puis c'est important. Il y en a d'autres qu'au contraire, faut tenter d'autres thérapies comme les psychothérapies. Il y a aussi de comprendre bien les symptômes, comme on parle souvent d'anxiété, mais l'anxiété en langage populaire, ça peut vouloir dire stressé, ça peut vouloir dire réactivité, intolérance, frustration, mais l'anxiété la définition clinique, c'est beaucoup plus une crainte, une anticipation, une inquiétude. Donc, ça ne sera pas les mêmes molécules pour un TDAH que pour une anxiété, là.
Je vous écoute, là, puis j'ai l'impression que vous dites aux gens, apprenez à gérer vos émotions.
Ben, je veux pas non plus.
Non, je veux pas minimiser, mais.
Non, je veux pas minimiser, mais je pense qu'il faut continuer. On constate encore en clinique des gens qui n'ont pas été suffisamment diagnostiqués puis qu'on n'a pas suffisamment traité, mais effectivement, je pense qu'il faut prendre le temps de regarder dans la panoplie, dans le range clinique, excusez l'anglicisme, est-ce qu'on est dans une intensité plus normalisante ou plus pathologique. Je pense qu'il faut prendre le temps de regarder ça. Puis les gens cherchent beaucoup sur Internet aussi, les gens recherchent les diagnostics de plus en plus. Donc, des fois, l'autodiagnostic, il faut le nuancer aussi. Quoique, des fois, ils tombent sur la bonne explication aussi.
Dr. Grégoire, merci. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Au revoir, Dr. Pascal Grégoire est psychiatre à l'enfance et de l'adolescence. Je ne dis pas que la situation est comparable ici, mais c'est vrai que, puis on le voit, là, et ça a été renforcé avec la pandémie, le niveau d'anxiété, est-ce que ça nécessite toujours un traitement médical? Peut-être pas, mais pour plusieurs, c'est une réponse rapide qu'on cherche. Puis l'expression, je l'entends souvent, là, tu sais, j'aime mieux lui prescrire, puis des médecins de famille qui disent ça, quelque chose, parce que c'est difficile, par exemple, d'avoir accès à d'autres formes de traitement.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Volet consommation ce matin, avec la flambée des prix puis le panier d'épicerie qui coûte de plus en plus cher, il semble que les consommateurs se tournent davantage vers ce qu'on appelle les marques maison, les marques des différentes bannières. La presse ce matin, non seulement les consommateurs s'y intéressent, mais la presse nous dit que les métros IGA de ce monde poussent leurs produits. Et là, tu prends l'exemple classique du ketchup. Tu dis, ben moi, c'est du ketchup Heinz ou du ketchup du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce que je vais prendre la marque maison? T'hésites, est-ce que c'est moins bon? Est-ce que c'est plus cheap un peu? Jacques Nantel est avec nous, professeur émérite au HEC Montréal. Monsieur Nantel, bonjour.
Bonjour, monsieur Arcand.
Parlez-moi de ces marques. Est-ce que ce sont d'abord des produits de qualité comparable, meilleurs? C'est comme si on regardait ça avec un certain recul il y a quelques années en disant, il me semble que ça a l'air moins bon.
Oui, vous avez une bonne question. En fait, les marques maison changent, évoluent, ont évolué beaucoup au cours des 20 dernières années. À l'origine, vous avez tout à fait raison, si on parle de l'émergence des marques de grande bannière dans les années 50, c'était des marques de moins bonne qualité, à moins de coût, évidemment. Et puis, il y a une vingtaine d'années, c'est Loblaws qui a vraiment changé complètement la donne en rentrant ses marques à choix du président. Et eux, leur impératif, ça a été de dire, non, la marque va être meilleure que les marques nationales, et puis on va pousser davantage. La logique est très simple, c'est qu'ils n'ont pas à faire de publicité, et ils peuvent évidemment donner la tablette, la meilleure tablette en magasin, de sorte que sur le plan marketing, ce sont des marques qui peuvent aller chercher de très grandes marges, même s'ils coûtent un peu plus cher à produire parce qu'elles sont de meilleure qualité.
Est-ce que c'est vrai que souvent, ces marques maison sont fabriquées par les mêmes entreprises, c'est-à-dire celles qui produisent des marques privées, là?
Oui, c'est souvent le cas, ce n'est pas toujours le cas. Ce que des grandes bannières vont faire souvent, c'est d'aller chercher un plus petit producteur qui est capable de produire des produits de qualité en grand nombre, mais qui n'arrive pas à pénétrer le marché. Donc, essentiellement, plutôt que de lui dire, ben, on va prendre ta marque, on inverse le pipeline, puis on lui dit, ben, tu vas fabriquer notre marque en fonction de nos impératifs et puis évidemment de notre conditionnement.
Et comment réagissent les multinationales de voir, disons, une augmentation de la tendance vers les marques maison?
Ben, elles aiment pas ça, hein. En fait, même je vous dirais que les grandes marques, la dernière chose qu'elles souhaitent, c'est de devoir justement commencer à produire les marques des grandes bannières parce que c'est là où, pour elles, les marges sont les plus petites. Elles veulent pas être condamnées à ça, donc elles essaient toujours de pousser ce qu'on appelle leur marque nationale. Ce faisant, évidemment, elles doivent investir davantage, notamment en publicité, notamment en coupons, en rabais, ce qui réduit beaucoup leurs marges, ce qui donne un avantage, dans le fond, aux marques de grande bannière qui, elles, comme je le disais, n'ont pas à subir ces coûts-là.
Et est-ce que ça amène les gens à choisir leur bannière? C'est-à-dire, si il y a un produit que je peux trouver chez IGA, chez Métro, bon, peu importe, c'est pas grave, je peux aller à un ou l'autre, mais si j'ai adopté des marques maison d'une bannière ou l'autre, je vais devenir plus fidèle, c'est sûr.
Vous avez tout à fait raison, c'est un bon point. C'est évidemment, c'est le rêve des grands distributeurs. Jusqu'à tout récemment, ce n'était pas vraiment le cas. En fait, ce qui agissait beaucoup, c'était la proximité, évidemment, la qualité du magasin, et puis les rabais dans les circulaires. Maintenant, ce que l'on voit apparaître, ce qui est vraiment nouveau, c'est que les grands détaillants commencent à mettre leur marque maison, leur marque privée, dans leur circulaire. Et là, effectivement, on commence à voir une tendance à dire, telle marque en spécial dans la circulaire, ben, tout ça converge pour faire en sorte que je vais être davantage fidèle à Métro, IGA, Provigo, peu importe. Mais oui, on va dans cette direction-là, vous avez raison.
Merci, M. Nantel. Bonne journée.
Plaisir,
au revoir. Jacques Nantel est professeur émérite à HEC Montréal et expert en commerce de détail, mais c'est un papier intéressant dans la presse. Je viens d'une époque où tu passais devant les produits, les marques sans nom, là, ou les marques maison, tu disais, ça doit être plus cheapo un petit peu, moins bon, puis et là, c'est le contraire. Ils mettent la totale pour, justement, garder le profit pour eux et pas donner ça aux multinationales.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour.
Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.